France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui une émission du 10 octobre 2006, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Elle était le plus grand de nos rois, Louis XIV. Deux mille ans d'histoire. Elle était le plus grand de nos rois. Ces mots de Louis XIV, le jour des funérailles d'Anne d'Autriche, n'étaient pas seulement un hommage de circonstance rendu par un fils à sa mère. Dans un pays où la loi salique interdisait l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités, Anne d'Autriche a joué, dans les pires conditions, un rôle politique essentiel. Venue d'Espagne à l'âge de 14 ans, pour s'y marier avec le jeune Louis XIII, cette reine de France a dû supporter pendant des années la méfiance du cardinal de Richelieu, l'hostilité de sa belle-mère, Marie de Médicis, l'indifférence de son mari, les jalousies et les complots de la cour et surtout la fronde. Cette révolte du Parlement et des princes, pendant laquelle Anne d'Autriche a révélé son habileté, son courage et sa détermination pour sauver la couronne de son fils quand il était encore trop jeune pour régner.
J'ai vaincu ce python qui désolait le monde, ce serpent de l'enfer, la révolte, la fronde. Amoureux dévoté de la seule victoire, je cours sans cesse après la gloire. Une divine main m'en a remis les rênes. Une grande déesse a soutenu mes droits. Nous avons même gloire. Elle est l'astre des reines. Je suis l'astre des rois.
Marie-Catherine Vignal-Soulero, bonjour.
Bonjour Patrice.
Alors, on vient d'entendre un extrait du film Louis enfant roi de Roger Planchon, le jeune Louis XIV rendant hommage à sa mère Anne d'Autriche au lendemain de la fronde. Anne d'Autriche dont vous racontez la jeunesse hein, dans un livre qui vient d'être publié chez Flammarion, une jeunesse espagnole, hein, parce que malgré son nom, Anne d'Autriche n'était pas autrichienne.
Non, Anne d'Autriche est née en Espagne, à Valladolid. Elle était la fille du roi d'Espagne, Philippe III, et d'une autrichienne, véritable autrichienne cette fois-ci, Marguerite d'Autriche, dont elle l'a repris le nom, plus exactement dont on lui a fait reprendre le nom. Ce sont ses contemporains qui lui ont donné cette mention géographique accolée à son prénom, pour rappeler son ascendance prestigieuse s'il en est, puisque
c'est une Habsbourg.
Voilà, c'est une Habsbourg et par son père et par sa mère, l'arrière-petite-fille de Charles Quint.
C'était quoi l'éducation d'une infante d'Espagne ? C'était une infante d'Espagne, elle descendait donc du roi d'Espagne, à cette époque-là.
L'éducation était stricte. C'est une éducation avant tout religieuse, d'abord et avant tout religieuse. Et Marguerite d'Autriche, tout particulièrement, y a prêté beaucoup, beaucoup d'attention. Et bien que les enfants du roi et de la reine d'Espagne étaient assez souvent éloignés de leurs parents dans la vie quotidienne, par commodité matérielle essentiellement, et de manière également à ménager aux enfants un cadre de vie plus agréable que celui de la cour, malgré ces conditions, les enfants du roi et de la reine d'Espagne ont reçu une éducation particulièrement surveillée par leur mère, elle-même très proche de son confesseur jésuite qui s'appelait le père Allaire, et conseillée par ce confesseur jésuite, Marguerite d'Autriche a particulièrement veillé à ce que ses enfants et sa fille en premier lieu, Anne, reçoivent des préceptes moraux et religieux très poussé finalement, même pour l'époque, hein, et avec des pratiques de dévotion extrêmement développées, une pratique du culte quotidienne très à la mesure, très poussée. Oui.
Alors, à 14 ans, elle doit quitter définitivement, je crois qu'elle ne le reverra plus, sa famille, son pays, l'Espagne, puisque on lui demande de se marier avec le jeune Louis XIV, le jeune Louis XIII, pardon, Louis XIII qui est exactement le même âge qu'elle. Hein, 14 ans, tous les deux, on va les marier pour des raisons politique, on s'en doute, Marie-Catherine Vignal-Soulerot.
Éminemment politique. Le mariage n'a rien à voir avec les sentiments des deux adolescents, très jeunes encore à l'époque. Ils sont quasiment nés le même jour. Tous les deux sont nés au mois de septembre 1601. Ils ne se connaissent naturellement pas. Ils ne connaissent l'un de l'autre que les oui-dire de la cour, qui n'étaient pas peut-être très flatteurs, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que les cours de France et d'Espagne étaient rivales.
Il s'agissait peut-être justement de réconcilier, en tout cas de rapprocher l'Espagne et la France, qui avaient souvent été en guerre, qui le seront d'ailleurs ultérieurement encore.
Oui, exactement. C'est le but précis de ce mariage. C'est ménager une alliance la plus durable possible entre deux couronnes qui se combattent, hein, depuis le XVIe siècle.
Et puis pour la mère de Louis XIII, pour Marie de Médicis, il s'agit aussi d'assurer une descendance, hein, au royaume. Son fils a 14 ans, Louis XIII, mais il faut qu'il ait déjà un descendant. Alors là, ça se passe mal. Ils arrivent, ils se rencontrent pour la première fois de leur vie. Il y a eu d'abord un mariage par procuration, comme toujours, ça se passe en Espagne. Puis elle vient en France, elle rencontre Louis XIII à Bordeaux. Ils ont tous les deux 14 ans et hop, on jette Louis XIII dans le lit d'Anne d'Autriche. Et alors ça ne s'est pas très bien passé. D'abord, ils sont jeunes.
Non, ils sont très jeunes et on peut dire même que ces deux adolescents ont été littéralement, si je puis dire, livrés à eux-mêmes. Anne d'Autriche a sans doute reçu une éducation soignée de ses parents. En revanche, Louis XIII n'a certainement pas bénéficié d'une qualité d'éducation comparable à celle de la cour d'Espagne.
Et vous voulez dire quoi, d'éducation sexuelle ?
Non, pas d'éducation sexuelle, d'éducation en général, mais d'éducation peut-être sexuelle en particulier, bien que en la matière, Henri IV, son père, était plutôt...
Lui s'y connaissait, oui.
Oui, et même très impudique, hein, en la matière...
Louis XIII, c'est l'inverse, hein, très bigot, en plus pas très porté sur les femmes, on s'en rendra compte plus tard.
Oui, mais peut-être est-ce tout simplement une réaction à ce dont il a été témoin dans son enfance, et il ne faut pas oublier non plus que Marie de Médicis était très présente dans la vie quotidienne de son fils aîné et qu'elle a constamment cherché à tout régenter, y compris sa vie familiale. Et il y avait en plus le regard de cette mère qui a pu considérablement aussi gêner le jeune homme qui était Louis XIII.
Alors un fiasco, je crois qu'il ne reviendra plus jamais dans le lit de sa femme pendant 3 ans, puis il y reviendra. Mais alors là, c'est un échec total, car qu'est-ce qu'on attend d'Anne d'Autriche ? Ce sont des enfants. Aucun enfant. Il faudra attendre 23 ans, je crois, pour que le premier, le futur Louis XIV, naisse. C'est assez étonnant. Je crois qu'il y a eu pas mal de fausses couches. Mais au fond, ce pourquoi on l'a fait venir en France, c'était des enfants, ben ça ne se produit pas.
Oui, ce que la cour attend et ce que le royaume attend également au premier chef d'une reine, c'est l'enfantement, c'est donner un dauphin, particulièrement un dauphin, à la couronne de France, assurer la descendance du trône. Et malheureusement pour Anne d'Autriche, il va falloir attendre des années et des années pour qu'enfin Louis Dieudonné, qui porte bien son nom, arrive enfin et que la descendance de Louis XIII soit assurée.
Alors en attendant, pendant des années, pendant une bonne dizaine d'années, elle va s'initier à son métier de reine de France sous l'œil vigilant de celui qui gouverne réellement la France, le cardinal de Richelieu, qui se rend compte, qui soupçonne en tout cas Anne d'Autriche de s'intéresser à d'autres hommes que Louis XIII.
Éminence, Milord duc de Buckingham se trouve chez la reine.
Que faisons-nous, Éminence ?
Ce que bon vous semblera, Rochefort.
Fuyez, Milord, il y va de mon honneur, et peut-être de votre vie. Rien n'est possible, vous le savez. Mes serments, nos deux royaumes, tout nous sépare. Si j'étais surprise près de vous, si je vous donne un gage... Un objet que j'ai porté, et que vous porterez vous-même. Partirez-vous ?
À l'instant même.
Ce sont les ferrets de diamants que je portais à Amiens. La première fois que vous m'avez vu.
Alors cette idylle entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham, tous les lecteurs d'Alexandre Dumas la connaissent. Est-ce que c'était réel ou c'est sorti de l'imagination de Dumas, cette histoire des Ferrets, de la liaison hypothétique ou de l'idylle avec le duc de Buckingham et la reine de France et Anne d'Autriche?
Alors l'histoire des Ferrets n'est connue que par un seul témoignage, celui de La Rochefoucauld. Il n'y a que La Rochefoucauld qui évoque l'épisode des Ferrets. L'idylle elle-même a été inspirée à Alexandre Dumas par un incident bien réel, par deux séries en réalité d'incidents bien réels qui se sont produits à Amiens au mois de mai 1625, lorsque la cour et la reine accompagnent vers Calais, vers l'Angleterre, la jeune Henriette de France qui vient d'être mariée au roi d'Angleterre. Et à leur rencontre vient un envoyé spécial du roi d'Angleterre, le fameux duc de Buckingham, qui à l'époque a la réputation d'un coureur de jupons assez patenté.
Là, c'est les jupons de la reine, hein, c'est pas pareil.
Oui, la cible du duc de Buckingham a effectivement une place bien particulière, mais la rencontre est en réalité soigneusement préparée par la duchesse de Chevreuse et par son amant, l'ambassadeur du roi d'Angleterre lui-même.
Alors, vous faites allusion, Marie-Catherine Vignal-Soulayrault, à quelque chose qui est quand même... On se rend compte très vite, cette épisode vrai ou faux, peu importe, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, non seulement elle est victime à la cour de l'indifférence de son mari, qui ne s'intéresse pas à elle, mais aussi elle est détestée par sa belle-mère, Marie de Médicis, qui lui reproche un peu ses relations, et par le véritable chef de gouvernement français, c'est-à-dire Richelieu. Richelieu se méfie d'elle parce qu'il la soupçonne de trahir la France au moment où elle retourne en guerre contre l'Espagne. On l'accuse de continuer à correspondre avec son frère, c'est-à-dire Philippe IV, le successeur de Philippe III, le nouveau roi d'Espagne, Philippe IV. Et là, c'est vraiment un soupçon de trahison.
Et en réalité, à juste titre, lorsque Richelieu arrive au pouvoir à la tête des affaires gouvernementales en 1624, il n'a de cesse que de combattre la puissance espagnole pour assurer la montée en puissance, toujours, du roi de France, de Louis XIII. Et dans l'esprit de Richelieu, le combat, au moins le combat d'influence contre les Habsbourg, était un passage obligé pour Louis XIII afin de s'imposer sur la scène européenne. Et Richelieu était très très bien renseigné, bénéficiait d'un réseau de créatures, c'est le terme employé à l'époque, en réalité d'espions, qui sillonnaient le royaume, mais également les royaumes aux frontières du royaume, dont l'Espagne, et qui surveillaient les échanges de courriers. Et Richelieu savait parfaitement que la reine Anne d'Autriche poursuivait une correspondance avec toute sa famille. Alors, donc, effectivement, je l'ai dit à juste titre, le soupçon de trahison ou le soupçon d'espionnage existait. Mais Anne d'Autriche, en réalité, ne pouvait pas trahir autant que cela, puisqu'elle n'était pas au courant, elle n'était pas tenue au courant des affaires.
Elle est mise à l'écart, elle le sera encore plus par Richelieu qui la surveille en permanence. Richelieu meurt en 1642, il est remplacé par le cardinal de Mazarin. Mais le grand changement, évidemment, pour Anne d'Autriche, c'est quelques mois plus tard, lorsque meurt Louis XIII, Anne d'Autriche devient régente du royaume, puisque son fils est encore trop jeune pour régner.
Comment avez-vous nom à présent, mon fils?
Louis XIV, mon papa.
Pas encore, mon fils. Pas encore. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal est votre guide.
Depuis ce matin, par ordre de la reine, je suis votre principal ministre. Et monsieur Letellier, votre secrétaire d'État à la guerre. Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui remportait vos armées.
Le duc d'Enghien a écrasé les Espagnols à Rocroi, dans les Ardennes. Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté.
Alors, le règne de Louis XIV commence en effet par sous de bons auspices. Mais alors, en revanche, ce n'est pas Louis XIV qui gouverne, il a à peine 5 ans. C'est Anne d'Autriche, brusquement après avoir été mise à l'écart pendant des années du pouvoir, la voilà régente du royaume, accompagnée certes, aidée par Mazarin, mais la voilà femme de pouvoir. Et là, c'est une véritable métamorphose, Marie-Catherine Vignal-Soulero.
Oui, métamorphose amorcée dans les décennies précédentes, je pense. À partir du moment où Anne d'Autriche devient mère d'un fils, devient mère du dauphin, devient mère d'un second fils, qui assure là à coup sûr la perpétuation au trône, à partir de ce moment-là, Anne d'Autriche va petit à petit prendre de l'assurance et Anne d'Autriche va avoir l'habileté de nouer des relations qui vont lui permettre effectivement d'accéder au pouvoir au moment du décès de Louis XIII.
Parce que son mari, parce que Louis XIII justement se méfie un peu d'elle, je crois que certes elle devait être régente puisque le fils était trop jeune pour régner, Louis XIV n'avait que 5 ans, mais en même temps il y avait des tas de contraintes qu'elle a fait sauter. Je crois que le testament, elle a dû faire casser le testament de Louis XIII pour exercer réellement le pouvoir.
Oui, alors Louis XIII naturellement devait d'abord tenir compte des coutumes, de la coutume du royaume qui prévoyait que la régence puisse être exercée par la reine-mère en cas de minorité du roi régnant. Il se méfiait beaucoup d'Anne d'Autriche, c'est pourquoi dans son testament, il a prévu un conseil de régence qui devait exercer le pouvoir en réalité à la place d'Anne d'Autriche, même si celle-ci y était incluse dans le fameux conseil de régence. Mais la reine, de manière très sage, va prendre contact avec un des membres du Parlement de Paris, l'avocat général Omer Talon, de qui elle va se rapprocher et grâce en partie auquel elle va pouvoir faire effectivement casser les dernières dispositions testamentaires de Louis XIII de manière à pouvoir jouer un rôle effectif au Conseil de Régence.
Oui. Et puis un rôle effectif tout court avec, bien entendu, Mazarin. Hein, Mazarin, le successeur du Richelieu, qu'elle garde auprès d'elle. C'est quand même extraordinaire. Voilà la France gouvernée, elle le restera pendant quelques années comme ça, par une reine d'origine espagnole et par un cardinal italien. Et tous les deux, d'ailleurs, ont vraiment fidèlement servi la France, Marie-Catherine Vignal-Soulero.
Oui, et c'est là qu'on voit la formidable évolution qui a pu se jouer dans l'esprit d'Anne d'Autriche, qui, à un moment donné, s'est donner priorité aux intérêts du royaume de son fils avant les intérêts du royaume de sa naissance.
On a parlé, on a beaucoup dit, à l'époque il y avait des mazarinades, c'est-à-dire des pamphlets contre Mazarin qui soupçonnaient Anne d'Autriche, enfin l'un et l'autre, d'être des amants. On a même parlé d'un mariage secret, est-ce que c'est vrai ça, entre Mazarin et Anne d'Autriche?
Là, l'historien n'a aucune preuve. Et c'est vrai que le nombre de libelles et de pamphlets a été tellement important qu'évidemment la légende a pu naître, mais rien n'est moins sûr en réalité.
En tout cas, ils traduisent l'impopularité de Mazarin. On est en pleine crise économique, il a levé de nouveaux impôts et il devient la cible principale d'une révolte parisienne qui va contraindre Anne d'Autriche à quitter Paris avec son fils pour le château de Saint-Germain en 1649.
Mort à Mazarin ! Vive la France !
Altesse, la fronde.
Courage, Louis. Il aurait l'argent dans les poches basses, les diamants dans la poche haute. Nous allons rejoindre nos armées et les princes des Condés. Louis, ne faites pas ce giron. Nous partons à Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit.
Orléans, Longueville, Conti.
Ce sont des chiens. Mieux vaut leur crotte à Saint-Germain que leur complot dans Paris.
Avancez, avancez.
Des villages d'Oxin, il faut donner, tromper tous les passages qu'il voulait en donner. Pour sonner le tocsin d'un pauvre Mazarin. Ce méchant plein d'ouvrages a ruiné tant d'époux, en débouchant de villages, vous donnant des impôts. Pour sonner le tocsin d'un pauvre Mazarin.
Me
C'est une mazarinade à l'époque de la Fronde, la plus grande révolte qu'ait connue sans doute la monarchie française avant la Révolution, révolte du Parlement, révolte aussi des princes. Peut-être a-t-on profité, a-t-on pensé que cette femme, Anne d'Autriche, comme toujours en période de régence d'ailleurs, était trop faible pour comme ça résister à l'assaut, à la menace que les princes ont fait peser, et le Parlement fait peser sur la monarchie à l'époque, Marie-Catherine Vignal-Solero.
Oui, les périodes de régence ont toujours eu la réputation d'affaiblissement du pouvoir royal parce que le pouvoir en partie exercé par une femme était réputé plus faible. Et en réalité, Anne d'Autriche va révéler, je pense, toute son habileté au cours de la Fronde et va révéler également toute l'expérience acquise des complots qu'elle a pu connaître dans sa jeunesse. Et toute cette expérience, elle va la mettre dans la lutte contre les cabales qui se déroulent au cours de la Fronde et dans cette réaction formidable du pouvoir royal aux révoltes de toutes parts qui se produisent à cette époque.
Elle va diviser les frondeurs, elle va profiter des changements. C'est trop compliqué la Fronde, on s'y perd parce que Condé, parce que Turenne sont des gens qui ont été tantôt pour, tantôt contre le roi, tantôt contre la reine. Mais alors elle va profiter de tout ça, elle s'est cédée aussi de temps en temps, elle fera partir Mazarin, puis il reviendra. Et tout ça, ça va durer quand même jusqu'en 1653, à la fin de la Fronde. Et là, elle devient extrêmement populaire, Marie-Catherine Vignal-Solero.
Oui, alors peut-être est-ce justement son habileté finalement à s'être tirée de ce mauvais pas et surtout à avoir fait cesser les troubles, à avoir fait cesser la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que la Fronde a donné lieu à une véritable guerre civile dans le royaume. Guerre civile, on ne peu plus malvenu, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, après la guerre imposée au royaume par Richelieu contre la maison d'Espagne. Le pays était extrêmement affaibli, les populations n'en pouvaient plus d'impositions, de méfaits des gens de guerre, d'atrocités et de combats. Et c'est vrai que Anne d'Autriche, finalement, et paradoxalement, va savoir ramener la paix. Et je pense que le peuple, la population de l'époque, a su lui en être gré.
D'autant plus qu'elle se montre très attentive à la misère. Elle, c'est elle qui va soutenir les petits frères des pauvres de Saint-Vincent Paul, par exemple. Elle se consacre à beaucoup d'œuvres charitables.
Oui, et très tôt, Anne d'Autriche s'intéresse effectivement notamment à l'œuvre de Saint-Vincent de Paul, qu'elle encourage notamment dans ses missions dans l'est du royaume, et curieusement également même dans le duché de Lorraine, ravagé par la guerre de 30 ans, non seulement par les troupes françaises elles-mêmes, mais également par les troupes venues de l'Empire. Et Anne d'Autriche va même envoyer des subsides en argent à Saint-Vincent de Paul de manière à aider les populations, montrant bien là, effectivement, sa sensibilité au malheur du temps.
Une femme de culture aussi, qui s'intéressait à l'architecture. C'est elle que je crois qui a fait construire le Val-de-Grâce peu de temps après son arrivée en France. Elle encourage Corneille. En revanche, elle n'aime pas trop Molière. Elle va reprocher à son... Et même d'ailleurs le comportement de son fils qui, au contact de Molière, aurait été un peu trop léger à ses yeux.
Oui, oui, oui. Et là aussi, on peut constater que Anne d'Autriche a eu finalement une existence d'une richesse religieuse et culturelle que malheureusement j'ai eu je n'ai pas eu l'occasion de tellement aborder dans mon livre.
Parce que vous évoquez sa jeunesse.
Surtout sa jeunesse. Mais c'est Anne d'Autriche qui fait construire le Val-de-Grâce et c'est vrai que Corneille a toujours bénéficié de son soutien.
Et puis elle prépare aussi son fils à son métier de roi avant que Louis XIV se sépare d'elle pour exercer seul le pouvoir en 1661.
La France est épuisée. Elle est malade. Elle a besoin d'un sang vif, d'un soleil neuf. Le prince de Conti certainement verra cela d'informer Chanteuil, mais peu me chaud. À l'avenir, il n'assistera plus au conseil.
Vous ne pouvez pas l'exclure.
Qui m'en empêchera ?
Moi !
Alors, madame, vous me forcerez à vous exclure vous aussi ?
Vous n'oseriez pas ! Louis !
Mais si, ma mère, pour le bien du royaume, j'oserais. D'ailleurs, voilà, c'est fait. Cousin, je vous apprends qu'à l'avenir, la reine et vous-même ne participerez plus au conseil.
Sire.
Louis !
J'ai 22 ans, ma mère. Et je suis votre roi.
C'est pathétique, hein, cette année 1661, Marie-Catherine Vidal sous les roues. Voilà que Louis XIV, qui devient vraiment roi, se sépare de sa mère, qui l'a préservée contre la fronde, qui l'a entraînée à son métier de roi. Je crois qu'elle n'a pas tellement tenu rigueur, elle va mourir 5 ans plus tard. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est elle, par ses conseils, par l'aide qu'elle a apportée à Louis XIV, qui a préparé ce qu'allait devenir le règne de Louis XIV?
Je pense, elle y a largement contribué par la qualité de l'éducation qu'a reçue son fils, par l'exemple également qu'elle a donné à son fils, et je pense par la confiance qu'elle a également accordée à son fils. Et la fin de l'existence d'Anne d'Autriche est relativement paisible. Et peut-être l'extrait du film que vous venez de proposer dépeint-il de manière un petit peu trop sombre le personnage de la reine, à qui je prêterais volontiers davantage d'humanité vis-à-vis de son fils, en qui, je pense, elle avait une grande confiance, et qu'elle a certainement poussé à exercer lui-même le pouvoir plein et entier.
Et elle l'exerçait absolument, c'est le cas de dire. On dit souvent que le pouvoir absolu, également la cour, les fastes de la cour, tout ça, ça lui venait de sa mère, d'Anne d'Autriche.
Oui, c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de penser, en voyant ce jeune Louis XIV imposer tout un rituel de cour, un nouveau protocole, au protocole qu'a connu Anne d'Autriche dans son enfance à Madrid. Peut-être l'influence de sa mère, là, a-t-elle été déterminante.
Oui. Et puis même aussi cette volonté qu'il a eue, mais ça c'était en souvenir non seulement de sa mère, mais de la Fronde, de quitter Paris pour s'installer, le Louvre, pour s'installer à Versailles définitivement.
Et oui, parce que pendant la Fronde, Louis XIV est chassé du palais royal par les frondeurs, et il en garde un terrible souvenir. Et pour protéger la personne royale réellement, protéger sa famille, il va effectivement choisir de déplacer la cour.
C'était un grand roi, disait-il, d'Anne d'Autriche. C'est pas la seule femme d'ailleurs qui ait vraiment régné sur la France, mais elle a joué un rôle énorme.
Oui, elle a joué un rôle très important. D'autres reines pourraient peut-être lui être comparées. Blanche de Castille, Marie de Médicis, évidemment, Catherine de Médicis, et d'autres encore, Louise de Savoie.
Merci Marie-Catherine Vignal sous les roues. Pour en savoir plus, en tout cas sur la jeunesse de Anne d'Autriche, je recommande votre livre, Anne d'Autriche, la jeunesse d'une souveraine, publié chez Flammarion. À lire également Louis XIII de Christian Bouillet aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Louis Enfant Roi de Roger Planchon, disponible en DVD chez Universal, Mazarin, téléfilm de Pierre Cardinal, Le Roi danse, c'est l'extrait auquel vous avez fait allusion, de Gérard Corbiot, un DVD France Télévisions, et puis Les Trois Mousquetaires, bien sûr, de Bernard Bordery. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Et une réalisation de Anne Comilac.